de François de Sales à la sœur de Blonnet, qui va nous introduire à ce petit monde de la Visitation dans lequel, bien vite, nous allons retrouver Sainte Jeanne de Chantal. Pourquoi la sœur de Blonnet? Parce que elle est exemple parfait de la première génération de la Visitation. La lettre que nous lirons est de 1618. La Visitation existe depuis 8 ans. Et les premières sœurs sont bien souvent issues de l'apostolat de François de Sales dans son diocèse. Et la sœur de Blonnet, c'est dès sa toute petite enfance qu'elle a connu le Saint-Évêque, et adolescente encore, à l'occasion d'une prédication à la cathédrale. Eh bien, dans cette circonstance, s'ouvrant à lui de ses désirs de vie religieuse, François de Sales dirigera très vite vers la Visitation naissante Marie-Aimée de Blonnet, cette sœur de Blonnet à laquelle s'adresse la lettre que nous allons lire maintenant. Alors, sœur de Blonnet est facilement triste, facilement inquiète. Et dans des cas de ce genre, François sait merveilleusement être le consolateur, être celui qui fait retrouver la joie de vivre et la joie de vivre en Dieu aux âmes parfois un petit peu trop inquiète. Alors, il va évoquer toutes les sœurs de la Visitation qu'il aimerait tant rencontrer une par une, parce que il est un père pour chacune d'entre elles. Et ici, nous allons voir comment ce petit monde de la Visitation autour de la sœur de Blonnet vit de l'intimité divine, d'un continuel souci d'oraison, et c'est, ma foi, une très belle lettre de direction spirituelle. Ce m'eût été une consolation sans pareille de vous voir toutes en passant. Mais Dieu ne l'ayant pas voulu, je m'arrête à cela. Et cependant, ma très chère fille, très volontiers je lis vos lettres et y réponds. Ô Notre-Dame, ma très chère fille, si notre Seigneur pense à vous et s'il vous regarde avec amour. Oh oui, ma très chère fille, il pense en vous, et non seulement en vous, mais au moindre cheveu de votre tête, c'est un article de foi et il n'en faut nullement douter. Mais je sais bien aussi que vous n'en doutez pas, mais seulement que vous exprimez ainsi l'aridité, la sécheresse et l'insensibilité en laquelle la portion inférieure de votre âme se trouve maintenant. Vraiment, Dieu est en ce lieu et je n'en savais rien, disait Jacob, c'est-à-dire je ne m'en apercevais pas, je n'en avais nul sentiment, il ne me semblait pas. Je parlais de ceci au livre de l'amour de Dieu, traitant de la mort de la volonté et des résignations. Je ne me souviens pas en quel livre. Et que Dieu vous regarde avec amour, vous n'avez nulle raison d'en douter. Car il voit amoureusement les plus horribles pécheurs du monde, pour peu de vrais désirs qu'ils aient de se convertir. Et dites-moi, ma très chère fille, n'avez-vous pas l'intention d'être à Dieu? Ne voudriez-vous pas le servir fidèlement? Et qui vous donne ce désir et cette intention, sinon lui-même en son regard amoureux? D'examiner si votre cœur lui plaît, il ne faut pas le faire, mais plutôt si son cœur vous plaît. Et si vous regardez son cœur, il sera impossible qu'il ne vous plaise, car c'est un cœur si doux, si suave, si condescendant, si amoureux des pauvres créatures, pourvu qu'elles reconnaissent leur misère, si gracieux envers les misérables, si bon envers les pénitents. Et qui n'aimerait ce cœur royal, paternellement maternel envers nous? Vous dites bien, ma très chère fille, que ces tentations vous arrivent parce que votre cœur est sans tendreté envers Dieu. Car c'est la vérité que si vous aviez de la tendreté, vous auriez de la consolation. Et si vous aviez de la consolation, vous ne seriez plus en peine. Mais ma fille, l'amour de Dieu ne consiste pas en consolation, ni en tendreté. Autrement, notre Seigneur...